Bonjour, un électrochoc, c'est ce qu'a représenté pour beaucoup la démission de Nicolas Hulot. Alors, est-ce qu'il y aura un avant et un après cet électrochoc? Comment, notamment pour les médias, être plus efficace dans la couverture de l'écologie? Comment mieux atteindre tous ceux qui n'y croient pas, tous ceux qui ne veulent pas en entendre parler, tous ceux qui pensent qu'on n'y peut de toute façon rien? Ce sera le débat de cette émission avec nos trois invités d'aujourd'hui, Linda.
Oui, alors Samuel Bollendorf, vous êtes photographe, vous êtes connu pour votre travail sur les invisibles, ceux qu'on n'entend pas, les hommes et les femmes précaires partout dans le monde. On vous doit par exemple une série de photographies sur les oubliés de la croissance en Chine ou encore sur le système hospitalier en France, sur l'école et sur la police. Et pour la première fois, vous abordez la question de l'écologie en profondeur. Vous venez de publier dans Le Monde Contamination, c'est une série de 7 reportages dans des territoires à jamais contaminés par des groupes industriels. Anne-Caroline Prévost, juste à côté de vous, vous êtes directrice de recherche au CNRS, écologue de formation. Vos travaux portent sur la crise de la biodiversité, mais en vous plaçant du point de vue des citoyens et des citoyennes dans leur rapport avec la nature au jour le jour. Et vous utilisez pour cela les théories développées en psychologie. On a avec nous aussi Jean-Baptiste Combi, mais c'est par Skype, qui est sociologue, maître de conférence à l'Institut français de presse. Et chercheur au Centre d'analyse sur les médias, vous avez publié en 2015 un ouvrage intitulé « La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public » dans lequel vous analysez justement la dépolitisation de la question climatique dans les médias.
Voilà, alors je disais en début d'émission, après l'électrochoc de la démission de Nicolas Hulot, est-ce que ça a vraiment représenté un électrochoc et comment après on va pouvoir continuer de tenter à sensibiliser le public aux questions de l'écologie. Mais alors, si je parlais d'électrochoc, c'est parce qu'en effet, le mot est revenu plusieurs fois après cette démission dans la bouche de plusieurs responsables, écolos ou non d'ailleurs.
La bonne réponse à l'électrochoc administré par Nicolas Hulot hier, c'est de faire plus pour l'écologie.
Ma conviction absolue, c'est que le départ de Nicolas Hulot, c'est un électrochoc. Il faut saisir cet électrochoc pour en tirer les leçons.
J'ai vraiment vécu cette démission de Nicolas Hulot comme un électrochoc.
Remerciement, parce qu'en revanche, je pense que son départ a été un électrochoc et que ça a permis de prendre conscience qu'effectivement, la maison brûle et on regarde ailleurs.
Alors avant de commencer cette émission et de rentrer dans le fond, est-ce que pour vous aussi, vous trois, cette démission a été un électrochoc, Samuel Bollendorf?
Bonjour. Je ne sais pas si ça a été un électrochoc pour moi, parce qu'on était vraiment... à 2 jours du début de la publication de la série dans Le Monde, donc on était vraiment mobilisés sur les dernières touches à apporter à ce projet.
Vous en avez pris connaissance quand même.
Évidemment, j'en ai pris connaissance. J'en ai pris acte. Et en fait, finalement, c'est la semaine dernière que je l'ai regardé. Je ne l'avais pas vu, donc j'avais l'info, évidemment. Et en fait, quand je l'ai vu, ça m'a profondément attristé. Mais c'était aussi de le voir, alors que je n'ai pas particulièrement de l'affection pour Nicolas Hulot.
C'est de le voir et de l'écouter.
Oui, c'est ça. Et finalement, d'entendre son constat d'impuissance à convaincre et à mobiliser ces plus hautes sphères de la politique.
Alors, on va revenir justement sur cette impuissance. Électrochoc pour vous ?
Oui, bonjour. Moi, j'ai fait partie de tous ces auditeurs qui l'ont entendu pour de vrai en live. Quoi. Et effectivement, ça a été un sacré... Alors, je ne sais pas, c'est électrochoc, mais j'en suis restée assise. Quoi. Et j'ai réalisé après coup, dans les semaines qui ont suivi, à quel point ça m'avait marqué. Parce que je me suis retrouvée à vouloir utiliser des verbatims de ce qu'il avait dit dans mes cours. Du coup, j'ai passé 3 heures à retranscrire tout son entretien après. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point ça m'avait touchée, même personnellement et professionnellement. Quoi.
Jean-Baptiste Combi.
Oui, alors je dirais que sa démission en soi n'est pas pour moi un électrochoc dans la mesure où depuis le jour de sa nomination, on attendait à ce qu'il démissionne. Par contre, la manière dont il a mis en scène sa démission est, je trouve, très bien faite. Et que, voilà, c'est plus sur la forme qu'il y a eu quelque chose d'assez fort. Il y avait une forme de sincérité qui s'est dégagée de ses propos, un aveu d'échec. avec un aveu d'impuissance, en effet, qui, pour le coup, a pu avoir un effet d'électrochoc, certainement, pour un certain nombre de personnes.
Voilà, à la fois la surprise, effectivement, puisque personne ne s'y attendait au début de l'émission, et ensuite la manière dont il l'a argumenté, la sincérité et l'émotion avec laquelle il l'a argumenté, et le fond de son argumentation lui-même, sur lequel on va revenir longuement dans cette émission. Alors, en revenant peut-être pour commencer par le passage de cette émission d'émission, qui a peut-être pour beaucoup été le plus frappant.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat ?
J'aurais une réponse qui est très brève. Non.
C'est impossible à expliquer.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve. Nos ressources naturelles s'épuisent. La biodiversité fond comme la neige au soleil. Et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire. Et surtout, pour être très sincère, mais ce que je dis vaut pour la communauté internationale, on s'évertue à entretenir, voire à réanimer, un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. Donc la réponse à votre question, non, je ne comprends pas comment, après la conférence de Paris, après un diagnostic imparable qui ne cesse de se préciser et de s'aggraver de jour en jour, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités.
Priorité. Alors, je crois que ce passage-là est pour beaucoup dans le saisissement de beaucoup d'auditeurs. C'est extrêmement rare d'entendre un visage ultra familier, a fortiori un ministre, dire « je ne comprends pas ». C'est un truc qu'on n'entend jamais, nulle part. Est-ce que, autour de cette table, vous êtes dans la même situation que lui, c'est-à-dire vous ne comprenez pas les raisons pour lesquelles ça ne prend pas, et là, on n'a pas des millions de gens dans la rue pour défendre la planète, ou est-ce que vous comprenez mieux et on peut tenter de lui expliquer à Nicolas Hulot, Anne-Caroline Prévost ?
Alors, c'est intéressant parce que Nicolas Demorand explique, il pose la question en disant, est-ce que rationnellement, vous pouvez expliquer ? Et en fait, effectivement, rationnellement, on ne peut pas expliquer, je pense. Parce que, et ça, c'est des travaux en psychologie qui le disent, on a beau connaître, c'est pas avec notre tête qu'on prend des décisions, c'est avec nos émotions et nos tripes. Et
seulement.
Du coup, non, pas que, mais c'est pas que avec notre tête, pardon. Ouais. Et du coup, je pense qu'effectivement, rationnellement, on peut pas expliquer. Mais il y a sans doute pas mal de propositions, je dis pas de causes réelles, quoi, mais de propositions, d'explications de pourquoi il y a cette forme d'indifférence. Et je parle de forme d'indifférence, mais pas forcément indifférence.
Mais ça reporte la question, pourquoi on prend pas la décision avec nos tripes, puisque si c'est avec nos tripes, on la prend.
On a une heure pour en parler, mais je peux commencer. Une façon de... Alors, il y a plusieurs possibilités auxquelles on peut faire appel. La première chose, c'est que la crise de la biodiversité, telle qu'elle est écrite et proposée par les scientifiques, elle est extrêmement grave. Et finalement, elle remet en cause tellement de choses qu'on a l'habitude de faire. Et elle remet en cause nos façons de penser, nos façons complètes de penser le monde qu'on nous a appris depuis tout petit, puis depuis des générations. Par exemple, que... une des raisons pour être heureux, c'est d'accumuler la richesse matérielle, qu'on pourra toujours tout résoudre avec la technique, que les ressources naturelles sont infinies, qu'on est un peu séparé de la nature et de la biodiversité, qu'on pourra toujours les utiliser pour notre bien-être, elle est capable de se régénérer et tout va bien. Voilà. Et ça, parler de crise de la biodiversité et de crise environnementale, ça demande à remettre à plat tout ça. Et c'est extrêmement... embêtant au niveau psychologique pour les gens, enfin, pour nous tous. Et là, il y a une des réactions les plus fréquentes pour faire ça, c'est quand ça a été développé par un psychologue dans les années 50, qui s'appelle Léon Festinger, et qui parle de dissonance cognitive. Donc là, en fait, on a un élément qui arrive dans notre pensée, qu'il appelle lui une cognition, enfin un élément, une information qui arrive, et qui va être plus ou moins cohérente avec ce qu'on a déjà dans la tête. Et si c'est trop dissonant, si c'est trop incohérent, si ça nous met trop en danger et si ça percute trop avec ce qu'on a dans la tête, ben on l'oublie. Parce que sinon, on n'y arrive pas.
Alors ça, c'est déjà un élément d'explication. Il y en a un autre que vous avez avancé dans une interview que vous avez donnée à Reporter, au site Reporter, qui nous a donné d'ailleurs l'idée de faire cette émission. C'est que vous dites, la biodiversité, j'y réagis en fonction de ce que j'ai vu, moi, personnellement, des espèces menacées de disparition. C'est-à-dire que si moi, j'ai jamais vu d'hirondelle... la disparition des hirondelles ne veut pas spécialement me toucher. Si moi, j'ai vu des hirondelles dans mon enfance ou après, je serais plus touché. Jean-Baptiste Combi, même question. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer à Nicolas Hulot ce qu'apparemment il ne comprend pas ?
Non, comme Anne-Caroline, je n'aurais pas cette prétention, mais on peut effectivement apporter des éléments d'explication. Dans mon travail, j'ai, depuis quelques années, mené beaucoup d'entretiens assez approfondis avec des personnes issues de différentes catégories sociales. Et je ne fais pas le constat de l'indifférence générale. Je fais le constat d'une indifférence de certaines catégories de la population. Alors, voilà, bon, par exemple, ce qu'on appelle les fractions économiques des différentes classes sociales, des personnes qui, effectivement, sont particulièrement réceptives au discours de la réussite matérielle qu'évoquait Anne-Caroline. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui sont très préoccupées, très inquiètes des enjeux environnementaux et qui s'efforcent de faire des choses et qui se demandent ce qu'elles peuvent faire et qui essayent de faire des choses. Simplement, je crois qu'il y a une forme de surdité et de cécité d'un certain nombre de responsables politiques, culturels, médiatiques également, à l'égard de cette préoccupation. Et du coup, ce que font les gens bien souvent, c'est qu'ils essaient d'adopter des attitudes éco-citoyennes. On a vu l'émergence très forte depuis une douzaine d'années d'une morale éco-citoyenne qui invite tous les individus à prendre en main au quotidien l'avenir de la planète. Et du coup, les gens font quelque chose, mais chez eux. Voilà. Et ce qui est difficile, en fait, c'est de créer des dynamiques collectives, des mobilisations qui soient plus collectives dans l'espace public. Alors, il y en a, on va en évoquer, je crois, quelques-unes par la suite, dans la suite de l'émission, mais là, c'est plus difficile. Ça, c'est un premier point.
Et c'est bien, en effet, de faire le distinguo entre les deux. Même question à vous. Vous comprenez, vous ?
Non, je ne comprends pas. Enfin, si, le sentiment que j'ai, c'est qu'on ne manque pas d'informations là-dessus. Mais en même temps, c'est un peu comme les sans-abri dans la rue. On fabrique des protections parce que c'est insupportable. Et donc, du coup, on produit des barrières pour ne pas être atteint. Et je pense que l'enjeu, c'est de réussir à affecter le public sur ces problématiques. Et donc, ça ne veut pas seulement dire l'informer. Hein. Quand on dit prendre des décisions avec les tripes, c'est aussi être capable de se figurer.
Je retiens votre mot « affecté ».
Oui.
C'est un mot rarement utilisé, d'ailleurs.
Oui, parce qu'on ne parle pas d'affect, ou voire même, on pourrait imaginer que c'est le diable d'essayer d'aller jouer sur la corde sensible, alors que l'information devrait être délivrée de façon brute. Mais je pense que là, il y a un enjeu de mobilisation. Et la mobilisation, elle ne se fait pas par réaction purement intellectuelle. Elle se fait aussi parce qu'on a été atteint.
J'ai l'impression que, comme dit Jean-Baptiste aussi, comme vous dites sans doute, c'est il y a quand même beaucoup de gens qui sont affectés et qui pourtant paraissent indifférents. Et là, c'est aussi quelque chose... c'est pas parce qu'ils ne sont pas affectés non plus qu'ils paraissent indifférents. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés, qui réagissent aussi avec leur affect. Mais pour qui c'est trop énorme, quoi. C'est trop énorme. Et peut-être la somme des émotions ressenties à l'idée de en regardant tout ce qui se passe nous rend un peu léthargique, quoi.
D'où le débat. Est-ce qu'il est bien pertinent d'affecter ? Est-ce que affecter est bien ce qu'il faut faire ? Et est-ce que affecter risque pas finalement d'être contre-productif puisque, effectivement, c'est trop énorme ?
Je pense que affecter, c'est le premier pas. Enfin, c'est de donner des éléments qui permettent aux gens de prendre la mesure. Enfin, je sais pas, quand on parle des insectes, on a beau dire, je sais plus combien, 70% des insectes ont disparu. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais quand tu as traversé la France en voiture, est-ce que tu t'es pas rendu compte que les phares n'étaient pas couverts d'insectes comme quand on était petit ? Bon, là, tout à coup, il y a une image, effectivement, qui me permet de prendre de la mesure de ce que ça implique dans ma vie aujourd'hui. Mais après, évidemment, il faut donner des solutions. Et là, je comprends pas pourquoi on martèle pas dans les médias, dans les écoles, dans l'éducation, dans les associations, des infos pour donner des solutions, des quotidiennement, alors, des choses comme ça. Et là, c'est la suite du fait d'être affecté.
Alors, on va y venir. Alors, comment on fait pour affecter ? Ben, premier cas d'école, on va prendre votre série de reportages dans le monde. Donc.
Oui. Contamination, j'en parlais au début de l'émission, c'est le titre de cette série de 7 reportages que vous avez menés donc, en collaboration avec le journal Le Monde dans des territoires, comme c'est écrit, à jamais pollués. Bon, alors ici, écrit par l'homme, on va dire par des groupes industriels, c'est ce qu'on comprend en tout cas à la lecture des nombreux papiers qui ont été publiés pour accompagner vos photos. Voilà. Et donc nous, vous êtes rendus pour ça en Russie, au Canada, au Japon et jusqu'au milieu du Pacifique, mais nous, on a choisi 3 reportages. Donc on va commencer par ici là, le trou noir à Dzerzhinsk. Je regarde cet écran, c'est le territoire russe où se fabriquaient des armes chimiques. Un lac donc, sans eau, où on voit des bidons dépassés. Il est entièrement composé de déchets toxiques, hein, je crois qu'on peut dire ça. Il y a une 20aine de mètres de profondeur avec une odeur suffocante qui se dégage. Là, on a 2 ouvriers qui sont, sans le savoir, bon, qui travaillent juste à côté, bah, qui sont sur l'un des sites les plus dangereux de la Russie. Alors qu'en 2003, l'âge moyen de décès chez les hommes et chez les femmes, donc 42 ans chez les hommes, 47 ans pour les femmes, et la ville, bah, elle compte. Alors on va d'abord regarder cette photo donc avec 2 jeunes filles, plutôt avec un fleuve qui paraît pas contaminé, pourtant qu'il l'est, et justement en partie à cause de ce trou noir. Et là, on sait aussi que dans cette ville, il y a beaucoup d'enfants handicapés, comme on peut le voir ici avec cette jeune adolescente et sa mère.
Alors ça, c'était la Russie.
Effectivement, on passe à Rio Doce, c'est-à-dire le fleuve Doux, qui est désormais surnommé le fleuve mort, et on comprend pourquoi avec ces images. Évidemment, le fleuve est complètement rougi. Ce sont les déchets de la mine de fer de 2 multinationales australiennes et brésiliennes qui ont complètement dévasté la faune et la flore.
Il faut dire qu'on est au Brésil. Hein.
Tout à fait, je ne l'ai pas dit, on est au Brésil, au Rio Doce, le fleuve brésilien, effectivement. Et donc, au résultat, on a eu 3 villes complètement englouties sous la boue, on le voit avec les ruines aussi, complètement rougies. 19 personnes ont été tuées et les survivants, quant à eux, eh bien, ils portent encore les stigmates de cette catastrophe. Et à 650 km de ce barrage, comme on le voit ici, c'est Regencia, c'est une station balnéaire, ce qu'il en reste en tout cas. Elle était connue pour ses vagues et pour être la plus grande réserve de tortues marines. Et voilà, peu de gens encore s'hasardent à surfer.
Il y a un troisième pays.
Tout à fait.
On va se rapprocher on va revenir en Europe.
Oui, c'est Naples. On passe à Naples, la terre de feu. Pendant des décennies, c'est la mafia qui a brûlé des ordures sur toute une zone des provinces napolitaines, des déchets nucléaires et même des carcasses. On retrouve aussi même des carcasses d'animaux. L'air est complètement contaminé et c'est une conséquence terrible pour les populations locales. On voit cette mère qui a perdu un enfant à cause d'une maladie, cancer précoce.
Alors, on va revenir sur vos images et sur la manière dont vous avez essayé d'affecter en images. Mais d'abord, la première originalité de ce reportage, c'est que c'est une initiative de vous, ce qui est assez inhabituel dans la presse. Parce que habituellement, dans la presse, c'est la rédaction qui a l'idée d'un sujet, d'un reportage et tout. Puis on se dit, tiens, qui on pourrait prendre comme photographe pour illustrer ? Là, ça ne s'est pas passé comme ça.
Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais bon, moi, je viens du photojournalisme. Ça fait 20 ans que j'ai travaillé pour la presse. Pendant plus de 10 ans, c'était mon mode de production. On n'est pas là pour parler de la crise de la presse, mais il n'empêche qu'elle est passée par là. Et donc, pour pouvoir continuer à raconter des histoires, je me suis tourné vers d'autres partenaires de production, soit l'audiovisuel public, soit des ONG ou des fonds de dotation. Mais sur ce projet, et à chaque fois, Le Monde, avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, a été partenaire de diffusion, finalement, de ces projets-là. Mais ne rentrait pas dans la production. Et quand j'ai eu l'idée de faire cette série, j'ai eu une bourse qui me permettait de produire la moitié. Mais j'ai donc proposé au journal de rentrer dans la coproduction avec moi. Et ils se sont engagés, pas corps et âme, mais en tout cas, ils ont mis énormément de financement. Ils ont mobilisé 7 journalistes pour qu'on puisse réaliser cette série en un an.
D'où est venue l'idée de cette série ? Parce que évidemment, ce qui fait tilt dans l'intitulé de la série, c'est cette idée de territoire à jamais pollué par l'homme, c'est-à-dire irrécupérable.
Il y a une dizaine d'années, j'avais lu un rapport du Blacksmith Institute qui faisait un classement sordide.
C'est quoi le Blacksmith Institute ?
C'est une fondation, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais plus si elle est anglaise ou américaine, qui dressait, sur l'environnement, qui dressait ce classement des 10 villes les plus polluées du monde. Alors évidemment, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais à la lecture de ces éléments, je me dis, mais en fait, ce sont des lieux dans lesquels on ne peut plus vivre. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, mais j'ai voulu travailler, moi, sur des lieux dans lesquels on ne peut plus vivre, en tout cas à l'échelle humaine. C'est des siècles pour que ces lieux se régénèrent naturellement. C'est des molécules très persistantes, etc. Mais je voulais que ce soit dans des pays qui soient des pays riches, des pays capitalistes, des pays qui incarnent notre système de ce début de 21e siècle. C'est-à-dire que c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est le Japon, c'est l'Europe avec l'Italie, c'est le Brésil et la Russie, qui sont des pays qui pourraient prendre en main politiquement ces catastrophes et réagir, mais qui sont tellement pris dans le pouvoir des lobbies qu'ils décident de ne pas agir, de ne pas prendre de décisions courageuses.
Alors, à l'image, ce qui est intéressant, c'est que vous mêlez plusieurs types de photos, et vos reportages mêlent plusieurs types de photos. Il y a d'abord les photos sur lesquelles on voit le désastre, quand on voit les bidons rouillés, semi-enterrés, que personne n'a jamais pris soin de débarrasser. Voilà, le désastre est visible. Et puis, il y a des photos dans lesquelles le désastre n'est pas visible. Il y a des photos, alors comme cette photo que montrait Linda tout à l'heure, qui est une magnifique photo, ça pourrait être une photo de vacances, une carte postale, je ne sais quoi. Pourquoi vous avez tenu à insérer aussi ce type d'image ?
Pour moi, c'était très important de... Alors là, on est à Nijni Novgorod, qui est la troisième ville de Russie, qui donc est en aval de la rivière Oka et qui donc récupère toute cette contamination. Mais j'ai en plus travaillé beaucoup sur des paysages, finalement. Là, c'est un paysage urbain, mais sinon, c'est beaucoup des paysages de nature.
Mais voilà, un paysage magnifique. On montre ça, je pars en vacances demain. Je veux dire, voilà, j'achète mon billet tout de suite.
mais la moitié des nappes de Naples sont contaminées aujourd'hui avec des traces d'uranium et de solvants toxiques. Mais l'enjeu pour moi, c'était de montrer, de donner envie. Je pense que les images auxquelles on est confronté en permanence sont extrêmement violentes. Que ce soit des images de drames sociétaux ou de guerre, mais aussi de ces images de réchauffement climatique, etc., ou de contamination, de pollution. Et quand on les voit, finalement, on opère donc cette réaction de défense, parce qu'il y a quelque chose d'insupportable de se dire qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, qui nous conduit directement à la mort, quoi. Donc, pour pouvoir supporter ça, on s'en protège. Et donc, je pense que c'était important de réaliser des images vers lesquelles on ait envie de se tourner, des images auxquelles on puisse adhérer parce qu'elles sont belles, parce qu'elles incarnent la nature telle que nous pourrions l'espérer. Et c'est à la lecture des textes, que ce soit dans l'exposition qu'on a menée à Visa pour l'image ou dans le Monde, c'est à la lecture des textes qu'on prend conscience de la violence de ce qui s'y joue, de la contamination et donc de l'irrémédiable.
On a une image absolument magnifique, là encore. C'est où, ça, déjà ?
Ça, c'est à Anniston, en Alabama. C'est un quartier qui a été rasé parce que Monsanto a produit ici pendant plus de 40 ans des PCB, en connaissant depuis les années 30 les effets sur la nature et sur les espèces vivantes. Et donc, encore aujourd'hui, on croise des femmes qui font des enfants avec 12 doigts, tant la concentration de PCB et donc de perturbateurs endocriniens notamment, parce que c'est un alliage de plus de 200 molécules extrêmement toxiques, extrêmement volatiles, extrêmement persistantes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve des PCB jusqu'en Arctique. Alors, et dans toutes les espèces.
Par exemple, ça, c'est un exemple intéressant. Alors, j'ai oublié, dans le reportage sur l'Alabama, vous avez une photo d'un enfant avec 12 doigts ?
Non, j'ai la mère.
Vous avez la mère. Oui. Vous auriez pu avoir l'enfant ?
Ils sont adultes et ils ont été opérés depuis.
Ah, ils ont été opérés. Voilà, c'est pas un refus de publier ce genre de photos.
Vous avez vu que j'ai photographié une jeune fille handicapée en Russie. Il ne s'agissait pas de faire une image violente, mais d'essayer de produire quand même aussi des éléments de constat, quoi.
Est-ce que d'une certaine façon, en insérant des images esthétiques très belles, où effectivement aucun désastre n'est visible, vous avez l'impression que Samuel Bollendorf a voulu réagir contre le danger que vous signaliez, c'est-à-dire ce danger de dissonance cognitive, c'est-à-dire ce danger d'envoyer dans la gueule du lecteur un truc tellement violent qu'il ait tendance à se protéger, à refuser de voir. C'est une manière de réagir contre ça ?
Sans doute. Ce que j'aime bien dans les photos qu'on voit ici, c'est que vous mettez des humains dans la nature aussi. Donc vous ne séparez pas la nature, qu'elle soit belle ou pas belle, de la société humaine. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'à mon avis, qui pourrait être une des pistes pour changer de regard et changer un peu la façon d'observer, de penser notre monde et notre relation au vivant. C'est d'arriver à retrouver l'image ou l'idée ou la conscience qu'on fait partie du vivant et qu'on fait partie de la biodiversité.
On vient de voir passer la photo du surfeur brésilien, là, alors qui est une photo extrêmement intrigante, c'est-à-dire on ne sait pas très bien, parce que vous nous dites d'un côté l'océan est pollué, c'est affreux, mais enfin en même temps on voit qu'il est prêt à aller faire du surf. On ne sait pas très bien ce qu'elle dit cette photo en fait.
Il y a quelques inconscients, et puis il y a aussi des gens qui ne sont pas informés, c'est-à-dire qu'ils ne... ils ne veulent pas voir, même en étant sur place. Ils ont l'impression que les médias ont trop insisté sur leurs problèmes. Certains vivent aussi, malheureusement, de l'économie qui détruit leurs propres terres. On l'a vu au Canada, en Alberta, avec les Indiens, les premières nations qui détruisent, dévastent leurs terres avec l'exploitation du pétrole, des sables bitumineux. C'est de la forêt primaire déforestée, c'est le lac Athabasca et des rivières contaminées avec des poissons déformés, etc. Mais c'est tellement d'argent que, évidemment, les communautés aussi retirent des bénéfices à détruire à jamais leur mode de vie.
Jean-Baptiste Plombi, qu'est-ce que vous retenez du reportage photo de Samuel Bollendorf ? Je ne sais pas si vous l'avez lu dans Le Monde au fur et à mesure de sa parution.
Oui, j'en ai regardé une bonne partie. Il y a deux, trois choses que je trouve particulièrement originales et inhabituelles au regard de ce que j'ai pu étudier sur les récits écologiques dans les médias. La première chose, bon, déjà, il faut saluer le fait que c'est une enquête au long cours. Il y a un investissement d'une rédaction pour faire ce travail long qui permet... d'abord de montrer des choses qui sont effectivement pas toujours très réjouissantes. Et il y a une tendance dans le traitement médiatique des enjeux écologiques assez forte à vouloir montrer du positif, des belles images. Il y a l'effervescence aussi de ce qu'on appelle le journalisme de solution, l'idée qu'il ne faut pas déprimer, pas décourager, bon, sans trop savoir si les gens sont réellement déprimés, découragés en regardant ce type de reportage. Moi, je crois que c'est important de montrer aussi que tout n'est pas rose, quoi. Et ce reportage le fait avec beaucoup de précision, de finesse et de franchise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce que soulignait Anne-Caroline, c'est effectivement le fait de montrer les conséquences sur les sociétés humaines, sur des catégories sociales. On voit bien que ce n'est pas n'importe quel type de population qui sont touchées par ces pollutions diverses. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça permet d'articuler, et quand on connaît effectivement la carrière et l'œuvre de Samuel, on n'est pas surpris du fait que spontanément, il va articuler la question des inégalités sociales avec celle des problèmes environnementaux. Et ça, je crois que c'est très salutaire aussi. Voilà, donc c'était ça, je pense que c'est des choses qu'il faut.
Vous diriez ces choses dans les mêmes termes à propos de votre travail ? Vous avez essayé d'articuler les inégalités sociales et les problèmes écologiques ?
Moi, c'est effectivement, ça fait 20 ans que je travaille sur des problématiques sociales et j'étais pas, évidemment, j'ai une sensibilité environnementale, mais j'étais pas un militant écologiste, etc. Et donc, réaliser ce travail, ça voulait dire, évidemment, donner la parole à ceux qui subissent, qui souvent se retrouvent un peu tel David contre Goliath et qui ont l'impression de ne pas pouvoir se battre. Donc, évidemment que ça fait partie de mon travail. Mais c'est vrai que ça fait maintenant quelques années que j'ai travaillé sur des problématiques sociales très lourdes, mais qui faisaient l'objet de disparitions, notamment sur les immolations en France il y a quelques années. Et donc, par définition, je me retrouvais sur un sujet sur lequel je ne pouvais pas faire d'image de l'événement. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces lieux vides, laissée sans trace, qu'on pourrait fouler en allant au supermarché à
Par
Pôle
exemple,
emploi.
Le lieu d'une immolation en France.
Le lieu d'une immolation devant Pôle emploi, au milieu de la cour de récréation d'un lycée ou devant une agence France Télécom, sont des lieux qu'on, sur lesquels on passe si on ne sait pas ce qui s'y est passé. C'est des non-lieux périurbains. Et quand on découvre ce qui s'y est joué, on ne peut plus les regarder de la même façon. Et donc c'est de cette façon-là que j'ai travaillé aussi sur des lieux de violences faites aux réfugiés, sur des lieux où on a retrouvé des sans-abri morts à Paris. C'est juste des bouts de trottoir avec des histoires de disparition anonyme. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais peut-être qu'il faut travailler aussi, malheureusement, comme ça, sur la nature.
C'est très intéressant ce que vous dites sur votre démarche et effectivement le fil directeur que ça trace entre vos séries précédentes et celle-ci autour de l'idée générale d'invisibilité, quoi.
Oui, malheureusement, c'est les images de notre disparition future que...
Les images de notre disparition future, dit-il dans un grand rire. Jean-Baptiste Combi.
Si je peux rajouter un point. Oui, juste pour ajouter un point par rapport à l'invisibilité. C'est vrai que là aussi, souvent, quand on montre les images des conséquences des pollutions ou des tas des dérèglements climatiques, etc. Souvent, on montre des choses visibles. Le coup de force, un petit peu, je trouve aussi de certains de reportages réalisés par Samuel, c'est de montrer des pollutions invisibles. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que bien souvent, d'un point de vue sociologique, on considère que les pauvres sont sales. Regardez, ils jettent tout par la fenêtre. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai pu m'en mettre au jour, c'est que les catégories populaires, les fractions les plus démunies de nos sociétés ont en fait les modes de vie les moins pollueurs, les moins nocifs pour la planète. Alors que plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on rencontre des modes de vie qui sont peut-être très propres, très respectueux de l'environnement sur le plan visible, mais qui génèrent des pollutions invisibles beaucoup plus nocives. Et donc là, je trouve intéressant aussi le fait de montrer ces pollutions invisibles.
Alors, pollution invisible, ça va nous amener tout droit vers la deuxième partie de l'émission. Oui, vous voulez ajouter un mot, Anne-Caroline Prévost ?
Oui, je voulais aussi revenir sur le mot invisibilité, mais pas en termes de pollution visible et de pollution invisible, mais au fait que même des choses qui pourraient être visibles pour certains ne le sont pas pour d'autres, et notamment le fait que, collectivement, qu'on soit de n'importe quelle catégorie socio-professionnelle ou n'importe quelle, dans la culture dite occidentale, on ne nous apprend plus à regarder, ou on nous apprend à plus regarder, ou à plus toucher, regarder, sentir la nature qui est autour de chez nous. Voilà. On pourra continuer à en parler après.
Très bien, merci. Alors, visible, invisible, tout ça nous amène sur la stigmatisation, la culpabilisation des catégories les moins riches, comme le disait Jean-Baptiste Combi. Alors, je voudrais qu'on écoute un autre extrait de ce que disait Nicolas Hulot dans cette fameuse émission d'émission.
Je supplie les uns et les autres d'éviter la récupération. Posons-nous une question centrale sur notre propre responsabilité, sur nos propres contradictions. Pardon de vous le dire, mais en tant que citoyen, on peut aussi se poser la question. Ça va vous paraître là aussi totalement dérisoire, mais quand je vois qu'on continue à acheter ces mégots par terre, que le petit geste élémentaire, est-ce que notre société est bien prête à des grands changements ? Est-ce qu'on est prêt à remettre en cause nos modes de consommation, nos modes de production ? C'est cette question qu'il faut se...
Alors, les mégots jetés par terre, le petit geste, est-ce que stigmatiser le mégot jeté par terre est utile pour la cause ou est-ce que au contraire, il s'agit d'une stigmatisation visant une fausse cible ? Une émission de télévision cette semaine a apporté des éléments particulièrement intéressants sur ces questions.
C'est Cache Investigation, donc diffusée sur France 2, qui a enquêté sur la grande intox du plastique. Les industriels en fabriquent 10 000 tonnes par seconde dans le monde. Et si le plastique cause des ravages sur toute la planète, c'est de la faute du consommateur, surtout pas des puissances industrielles qui le fabriquent. Et pour que ça rentre bien dans nos têtes, ces industriels ont mis sur pied d'incroyables stratégies de culpabilisation du consommateur. Justement, on va partir d'un exemple avec l'association Gestes Propres, dont l'objectif affiché depuis 50 ans est de lutter contre les déchets sauvages. Vous connaissez sans doute ces publicités là que vous voyez, un gobelet souillé par terre, le nom du coupable inscrit dessus, donc jeté par Marie, le 19 mars 2011, et celle-ci, une autre, avec un paquet de cigarettes et des mégots. Donc, on va voir s'afficher sur l'écran, jeté par Paul. Bon, on ne la voit pas, mais en gros, c'est la même idée. Donc, c'est un paquet de cigarettes, je voulais vous la décrire. Voilà. Jeté par Paul et Phare, qu'on voit le 5 novembre 2014, et toujours accompagné de ce slogan: vous pouvez laisser une plus belles traces sur Terre. Donc c'est une campagne contre l'incivilité et donc elle est très très bien ficelée. Pardon, et Cache Investigation est allée retrouver justement le président de cette association, donc Geste Propre. On va regarder un extrait.
Et pour une fois, on commence par la fin. Après notre interview, Jean-François Moll, qui a oublié son micro, livre ses premières impressions à son équipe.
Bon, qu'un truc était difficile, c'était l'histoire de l'industrie industrielle. Elle va garder que le parti industriel. Elle y est revenue par tous les sens. Elle espérait quand même bien me coincer dessus.
Pour ne pas vous décevoir, monsieur Moll, voici donc l'extrait auquel vous faites référence.
Ça va ?
Très bien.
Aujourd'hui, qui finance votre association ?
On a les financements de nos membres industriels anciens. On a
Qui sont ?
Bah, vous avez la liste dans le... On ne donne pas leur nom, parce que... mais vous avez la liste sur notre site. Mais c'est des grandes compagnies, vous connaissez de la grande consommation.
Comme par exemple ?
Vous les connaissez comme moi. Non, mais je crois que c'est assez... ils sont embêtés. C'est... Enfin, c'est... j'ai pas envie de les citer.
Bah, s'ils sont sur votre site, pourquoi ça vous embête ?
Parce que c'est des règles de confidencialité qu'on a.
S'ils sont vus sur votre site, c'est plus confidentiel.
Oui, mais pas en communication grand public. Nous, on hésite beaucoup à les mettre dans une situation délicate.
Pourquoi une situation délicate ? Là, je comprends pas.
Pourquoi une situation délicate ? Non, mais je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas habilité à engager le fait de les nommer.
Pourquoi ? C'est eux qui vous ont demandé de ne pas le dire ?
Non, c'est une règle générale qu'on a dans l'association de tout temps.
Alors, est-ce que, par exemple, Danone est membre de Vacances Propres ?
Oui.
Est-ce que Coca-Cola est membre de Vacances Propres ?
Oui.
Est-ce que Nestlé est membre de Vacances Propres ?
Oui.
Est-ce que Haribo est membre de Vacances Propres ? Est-ce que ça ne vous dérange pas, vous qui luttez contre la pollution, d'être financé par les producteurs d'emballages en plastique ?
Mais pas du tout. Pas du tout. Ne comptez pas sur moi pour attaquer ceux qui nous ont soutenus depuis des années, qui ont fait ce que cette association est devenue. Le plastique rend des services énormes, y compris pour éviter les déchets. Donc il y a une bonne façon de vivre avec le plastique. La mauvaise façon de vivre avec le plastique, c'est de l'abandonner dans la nature. Et ça, on est férocement contre.
Alors, évidemment, ça pose plein de questions. La question que ça pose, c'est est-ce que quand Cache Investigation s'en prend à cette association, Geste Propre, est-ce qu'ils s'en prennent à une cible pertinente ou pas ? Parce qu'on pourrait dire, voilà, ben c'est des gens qui mettent des poubelles sur les plages, c'est plutôt bien de mettre des poubelles. Vous voyez, intuitivement, on pourrait dire ça, c'est plutôt bien de mettre des poubelles sur les plages. Quelle est votre analyse ?
C'est vrai que c'est une question complexe, parce que d'un côté, on se dit, de toute façon, le plastique, on va pas arrêter le plastique demain. Dans les hôpitaux, ça permet d'avoir sûrement des éléments extrêmement stériles. Il y a des chaînes de recyclage, bon. Très bien. Mais effectivement, il y a des catastrophes, notamment avec les plastiques à usage unique, etc. Et tous ces plastiques qui finissent dans les rivières, toutes les microbilles qu'on trouve dans les dentifrices qui ne sont pas filtrées par les...
Mais là-dessus, tout le monde est d'accord que le plastique est catastrophique. Mais là, on a des gens qui mettent des poubelles justement pour que les bouteilles
Absolument,
de plastique ne se retrouvent pas dans les rivières.
Mais c'est un genre de greenwashing. C'est-à-dire que, par ailleurs, ils vont même avoir des campagnes sur du plastique biodégradable. Et quand j'étais sur Tara pour traverser ce qu'on appelle le continent de plastique. Il y avait une doctorante dont le travail, c'était justement les bouteilles en plastique biodégradables. Alors, on les met dans un compost industriel à 70 degrés, et effectivement, elles se dégradent en 60 jours. Mais la même bouteille de plastique biodégradable, on la balance dans la mer, et ben 60 jours après, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire que, effectivement,
on est sur la nocivité du
le consommateur, il se dit super, elle est biodégradable, je ne vais plus avoir besoin d'avoir un geste responsable, je vais pouvoir même la balancer dans la nature. C'est une catastrophe. Donc, on est en plus là sur des discours qui en fait n'impactent pas au bon endroit. C'est comme les images du continent de plastique où on voit des immenses barils flotter. Comme si un jour on pouvait le nettoyer, alors que ça n'est pas ça. Ces images, elles sont faites sûrement à la sortie des égouts de je ne sais quelle ville, mais que le continent de plastique, on voit rien. C'est très beau, c'est le Pacifique, voilà. Et c'est en fait des plastiques qui se sont fragmentés, donc c'est des microplastiques. Il y en a des milliards de milliards qui font la taille d'un grain de riz. Ils vont jusqu'à 20 microns, c'est-à-dire la taille du phytoplancton. Et donc ils sont ingérés par les poissons et rentrent dans la chaîne alimentaire, dans les tissus, etc. Et ça, jamais, jamais, on pourra le nettoyer. Et donc, on est sur des problèmes d'information, ça c'est sûr. On ne délivre pas les bonnes informations.
Mais là, excusez-moi, c'est juste le consommateur qui est pointé du doigt. Donc, du coup, on met des prénoms et c'est eux qui portent toute la responsabilité de cette fabrication de plastique. Voilà.
Anne-Caroline Prévost, sur cette séquence de cash investigation, sur ces campagnes lancées par Geste Propre.
Ça va être compliqué pour moi de donner un truc tout blanc, tout noir, parce que c'est pas tout blanc, tout noir.
C'est pas ce que
évidemment.
Je vous demande. Alors, faites du gris, faites donc du gris.
D'une façon générale, stigmatiser, mettre tout le poids sur les consommateurs, j'ai l'impression que c'est un peu facile, quoi. Voilà. Et c'est la façon la plus rapide et la plus facile de se donner bonne conscience. Je le dis, sans doute les gens qui financent ça. Pas forcément les gens qui font, mais les gens qui financent.
Voilà.
Plutôt que de changer d'autres modes de consommation, de fabrication, et des choses comme ça, quoi. Et donc, s'il y avait quelqu'un à pointer du doigt, c'est pas pour moi, ce serait pas l'association, mais c'est ceux qui leur donnent les fonds, quoi.
C'est ceux qui leur donnent les fonds. Ouais. Oui, mais en même temps, l'embarras du président de l'association à donner les noms de ceux qui lui donnent les fonds.
Mais en même temps, c'est normal. Il vit. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas cette association, mais il a l'air de vivre avec les fonds essentiellement qui viennent de ces grosses boîtes. Donc.
Il y a quelque chose de bizarre, c'est pas le lieu de le dénouer ici, mais entre la contradiction, parce que les noms de Coca-Cola et Danone figurent sur son site,
ça, je suis d'accord.
Donc c'est pas un secret économique,
oui, mais, ça, j'en sais rien,
mais en même temps, il veut pas les prononcer. Oui, voilà, Jean-Baptiste Combi, sur cette séquence.
Oui, alors je crois que c'est très intéressant parce qu'en fait, ce type d'associations et d'injonctions éco-citoyennes, en fait, elles existent depuis 30 ans et surtout, elles sont soutenues par des politiques publiques que j'ai eu l'occasion de bien étudier et qui, par des politiques d'incitation, par des labels, des taxes, etc. Et qui visent effectivement à individualiser ce problème collectif que sont les désastres écologiques. Et là, donc, du coup, ce qu'on observe, ce que donne à voir cette séquence, c'est comment, finalement, le capitalisme intègre, digère la critique écologique pour se mettre à l'abri de la critique et pour complexifier, en tout cas, la critique pour pouvoir dire, bon, regardez, on ne fait pas rien, on fait ça. Je ne sais pas, Bouygues Télécom, par exemple, Bouygues, l'entreprise immobilière, construit des écoquartiers aujourd'hui. Bon. Donc, il faut avoir cette vision, je crois, un peu structurelle des choses pour ne pas se faire prendre à ce jeu-là qui est en fait est le jeu du néolibéralisme face à l'écologie. Et je pense qu'il ne sert à rien d'épingler ce monsieur Moll, etc., qui sont des gens certainement de très bonnes intentions. Par contre, on peut leur indiquer que peut-être que l'engagement qu'ils mettent en place n'est peut-être pas aussi productif qu'ils l'espèrent.
Juste une question pour Jean-Baptiste Combi, justement. Est-ce qu'on retrouve ces processus de culpabilisation ou alors est-ce que les médias l'ont intégré? On va retrouver aussi des processus de culpabilisation du consommateur, donc en dépolitisant la question climatique, écologique dans les médias.
Alors, dans les médias, alors, ça dépend des médias, mais en tout cas, il est vrai que cette morale éco-citoyenne a, depuis 10 ans, trouvé un écho très favorable et massif, des relais massifs dans les médias, en particulier dans les journaux télévisés, mais pas seulement. Les journalistes des médias généralistes nationaux en particulier ont intégré le fait qu'il fallait que ce soit les individus qui prennent en charge, voilà, qui modifient leur comportement au quotidien chez eux, pour résoudre les problèmes. C'est de cette façon-là, en fait. Il y a une forme de division du travail de sensibilisation, ce que j'ai appelé une dolsa sensibilisatrice, qui est une forme de dépolitisation dans le sens où ça individualise au lieu de collectiviser les problèmes, de dire que ça relève de décisions politiques, de choix politiques, de la manière dont on organise la vie collective, dans la mesure aussi où c'est la façon dont on vit collectivement qui va rendre possible ou pas, souhaitable ou pas, certains comportements individuels.
Alors, oui.
Ce qui est vrai, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que effectivement on a Total qui cherche à culpabiliser Coca-Cola le public, le consommateur, mais que quand on voit Nicolas Hulot, c'est pas un crypto-gauchiste et pourtant il appelle à une révolution, c'est-à-dire qu'il pointe du doigt un problème systémique grave du système capitaliste.
Dans l'extrait qu'on a vu, il fait les deux, Hulot.
Il
dit c'est le système économique, c'est le libéralisme, etc. Et en même temps, il a lui aussi l'image du type qui jette son mégot.
Oui, c'est-à-dire qu'il place Macron, les deux. C'est quand même un ministre de Macron qui nous dit que le système a un problème. Et donc ça, c'est on n'est pas, c'est pas l'aile gauche de Mélenchon, quoi. Et par contre, ça, les journalistes, ou les médias, ne sont pas du tout dans cette approche. Du problème qui nous fait dériver. Mais par contre, ils sont dans on va apprendre des gestes responsables aux citoyens pour qu'ils puissent continuer à dériver sur leur iceberg sans se rendre compte. Mais sauf que le problème, c'est que c'est pas nous qui avons la main.
Enfin, ce qui est très frappant, encore une fois, dans l'émission de Hulot, c'est qu'on a l'impression qu'il place les deux, il renvoie les deux dos à dos, quoi. Il place les deux types de responsabilité sur un pied d'égalité, le type qui jette son mégot et le système libéral. La recherche du profit.
En même temps, je ne suis pas sûre qu'il les place sur un pied d'égalité, mais par contre, que tout doive être traité en même temps, enfin en même temps, que tout doit être traité en tout cas, ça me paraît évident. Enfin, et comme vous l'avez dit, on est vraiment dans un problème systémique. Enfin, on ne peut plus. En fait, les façons de s'en sortir actuellement, c'est de sectoriser toutes les questions. Et ça, en fait, en sectorisant toutes les questions, ça permet de chacune donner moins de poids à chacune. Et puis après, on peut faire des marchandages, on peut traiter l'un est plus fort que l'autre, etc. Mais en fait, c'est un problème systémique.
J'ai une question pour Jean-Baptiste Plombu. Tout à l'heure, vous nous disiez, pour résumer, les pauvres qui jettent leur mégot par terre polluent de manière visible, mais les riches polluent bien plus, mais de manière invisible. Vous pouvez donner quelques exemples de cette pollution invisible des riches ?
Ben, ça renvoie en fait au mode de vie, au style de vie valorisé aussi dans les classes sociales privilégiées. Ça va être par exemple le fait de se déplacer beaucoup plus. C'est-à-dire que les catégories privilégiées, classes favorisées, ont une consommation d'espace beaucoup plus forte. Ils ont une emprise sur le territorial plus importante avec des logements qui ont des surfaces plus grandes, qu'il faut chauffer, qu'il faut éclairer. Ils vont également beaucoup plus se déplacer et ils se déplacent plus vite. En transport aérien ou en SUV, enfin des voitures qui roulent vite et loin. Donc c'est en fait, ils vont acheter toujours plus. Voilà, c'est aussi des rapports à la consommation. Alors que par ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont très à même de mettre en avant leur bonne conscience environnementale. Hein, c'est ce que j'appelle le paradoxe de l'éco-citoyenneté, le paradoxe social de l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire que, j'ai des collègues en Belgique qui m'ont montré, des collègues en Angleterre qui l'ont montré aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a conscience des problèmes environnementaux et qu'on essaye d'avoir de faire attention, par exemple, en construisant son bâtiment selon les normes HBC, les plus écologiques, que au final on va moins polluer. Ça, il y a des données quantitatives, statistiques menées notamment par Sciences Po Paris ou avec des données de l'INSEE qui montrent ça. C'est que le mode de vie cumulé. Parce qu'en fait, on raisonne souvent par petits gestes. D'ailleurs, c'est une expression que renvoie Nicolas Hulot, par petits gestes segmentés, comportement par comportement. Mais si on agrège tout ça, l'empreinte carbone au terme d'une année des catégories sociales privilégiées, même si elles sont conscientes des problèmes, est beaucoup plus forte que celle des catégories populaires qui, de toute façon, sont soumises à une contrainte de la nécessité, font plus attention à leur porte-monnaie qu'à la planète, on peut les comprendre, qui savent qu'il y a des problèmes environnementaux, mais qui ne sont pas très familiers de cette éco-citoyenneté qui leur paraît un peu distante, mais qui, de toute façon, même si peut-être ils jettent leur mégot par la fenêtre, auront une empreinte carbone au terme d'une année moins importante.
Et d'ailleurs, ce que vous dites me refait penser aux images que montrait Linda tout à l'heure des campagnes de pub de cette association du geste propre qu'on peut revoir. Effectivement, je veux dire, le paquet de clopes jeté par terre est les mégots ou le gobelet de soda venant d'un fast-food, ce qui paraissent des images évidentes et incontestables, sont en fait des images de cette pollution par les catégories sociales les moins privilégiées. Alors que ça renvoie à ça, même si j'imagine qu'un riche qui va au McDo va jeter son gobelet de la même manière qu'un pauvre qui va au McDo, mais ça renvoie à une catégorie. Et si, il y a des riches qui vont au McDo, ça peut arriver, je vois.
Bien sûr,
oui. En SUV.
Ils y vont en SUV.
Ils vont au drive.
Voilà, comment une image en apparence incontestable et consensuelle peut en fait avoir un message très précis, oui. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Baptiste ?
Oui, par exemple, il y a Oui, il y a un collègue de l'INSEE qui avait montré, qui avait observé que les catégories sociales privilégiées faisaient très attention à acheter chez Darty, par exemple, de l'électroménager très performant sur le plan écologique. Donc, quand il y a une vitrine publique, on fait très attention. Par contre, ce sont aussi les mêmes qui vont faire tourner le lave-vaisselle à moitié vide. Donc, on voit que voilà, du coup, si on tire la conclusion de ces constats sociologiques, c'est que ce qu'il faut aussi repenser. Alors, il y a le rapport à la nature sur lequel a beaucoup travaillé Anne-Caroline, mais c'est aussi, je crois, les critères de la réussite et du prestige social. Voilà. C'est aussi ça que la question écologique nous invite à retravailler.
Voilà. Alors, juste à l'appui de ce que vous dites, je voudrais montrer l'extrait d'une émission qui dit ça d'une manière tout à fait frappante. D'ailleurs, c'est vous qui avez attiré notre attention sur cette émission. C'était sur Groland il y a une dizaine d'années.
Pour mieux comprendre ces petits gestes qui peuvent sauver la planète, nous avons suivi deux personnes. Bertrand Renvard, un homme totalement indifférent à cette grande cause, et Jérôme Ludion, militant écologiste conscient de ses responsabilités. Au cours de ce comparatif, deux petits compteurs afficheront leurs émissions respectives en tonnes de CO2 par an. Pendant que Bertrand Renvard va chercher du travail au volant d'un véhicule diesel mal entretenu qui met en danger l'avenir de nos enfants, Jérôme Ludion, lui, pense plus loin en allant à son travail.
Avec ma Saxo qui combine électricité en ville et GPL sur route, j'émets à peine 3 kg CO2 jour.
Pendant que Bertrand Renvard consomme de la viande, donc de l'élevage intensif, donc du maïs, donc des engrais, donc des tracteurs, donc du pétrole, Jérôme Ludion, lui, a pris ses responsabilités.
Auprès du comité d'entreprise, j'ai imposé une option bio à chaque repas. Résultat, des plats à base de légumes et de céréales cultivés à la main dans des coopératives agréées commerce équitable. Résultat, très peu de CO2. Mais faut savoir ce qu'on veut.
Et pendant que Bertrand Renvard se fait chier le week-end en regardant la télé, Jérôme Ludion, lui, va profiter du soleil au Maroc.
Avec tous les efforts que je fais, j'ai bien le droit de respirer de temps en temps. Allez, au revoir.
Moralité contre l'effet de serre. Mieux vaut parfois être pauvre et irresponsable que riche et écolo.
Voilà, Jean-Baptiste Combi, rassurez-moi, c'est pas vous qui avez écrit ce sketch de Groland, hein.
Non, je l'ai découvert d'ailleurs après avoir moi-même mené mes enquêtes, qui remontent effectivement à la fin des années 2000. Voilà, je soutenais ma thèse en 2008, je crois que la vidéo date de 2009. Et à la même période, donc, les collègues belges avaient montré aussi en Belgique ce genre de constat, alors là qui est présenté de façon un peu caricaturale, et surtout je crois que, et un peu moralisateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en vouloir aux individus des classes sociales privilégiées de se comporter ainsi. Elles vivent dans un environnement qui a une histoire, etc. Par contre, ça permet d'expliquer leurs contradictions, je crois, et voilà, et je pense que c'est surtout. En sociologie, alors, on parle de la hiérarchie sociale et symbolique des styles de vie. Je crois que, effectivement, la question écologique nous invite à revoir ça et à faire en sorte que ces styles de vie bourgeois, entre guillemets, favorisent la vitesse, le fait d'aller loin, la mobilité, etc. C'est aussi ces choses-là qu'il faut revoir pour revoir. Ça, c'est politique. Ça concerne la vie collective, l'ordre social.
Alors, autre conséquence de l'électrochoc sur lesquelles j'aimerais maintenant vous interroger, la fameuse marche pour le climat qui s'est déroulée en France le week-end dernier.
Ah oui, c'est en réaction justement à la démission de Nicolas Hulon. Maxime Lelon, qui est un jeune citoyen de 27 ans, a créé un événement Facebook pour inviter tous les citoyens et les citoyennes à une marche donc pour le climat. Alors, ce n'est pas un militant, il est journaliste de formation. D'ailleurs, il a créé le site indépendant, le 8e étage, qui vient juste de fermer. Mais en tout cas, il a reçu très vite le soutien de nombreuses associations qui ont pris en charge l'organisation de cette marche. Et le résultat, c'est que le 8 septembre, il y a des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues. Et il y en a eu 50 000 personnes, par exemple. Il y a eu 50 000 personnes, par exemple, à Paris. Et selon...
50 000 selon les organisateurs.
Les organisateurs, tout à fait. Et 18 500 selon la préfecture. On va regarder.
C'est une initiative mondiale qui a donc pris une dimension particulière en France et c'est peut-être grâce à Nicolas Hulot. Après sa démission, un jeune homme a décidé de lancer un appel pour interpeller le gouvernement. Il a invité ses concitoyens à participer massivement aux marches pour le climat organisées aujourd'hui et il a été entendu.
En tête de cortège, celui qui a battu le rappel de la mobilisation sur les réseaux sociaux.
C'est la première fois que je me mobilise, moi. Je n'ai jamais fait partie d'aucune association, j'ai jamais fait partie d'aucun parti politique. J'ai réagi à la démission de Nicolas Hulot en tant que citoyen. Pour moi, ouais, c'est réussi.
La démission de Nicolas Hulot, pour beaucoup, c'est le point de départ de ce mouvement, une prise de conscience.
Cet après-midi, à Paris, la place de l'Hôtel de Ville n'était pas assez grande. Visiblement, il y a eu un effet Nicolas Hulot sur la mobilisation.
Si lui n'y arrive pas, eh bien, c'est à la société de prendre le relais.
Alors, que le succès de ces marches soit une résultante de l'électrochoc, ça paraît clair. Est-ce que, j'ai envie de dire simplement, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être efficace si ça se reproduit, si ça se pérennise?
De toute façon, ce qui est sûr, c'est que manifestement, nos politiques ne prendront des décisions courageuses que s'ils ont l'impression que l'opinion leur met le couteau sous la gorge. Donc s'ils ont peur de ne pas être réélus, peut-être qu'effectivement, ils commenceront à agir. Donc il n'y a que en faisant masse. Maintenant, est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question.
Moi, j'ai un petit peu la même réaction. Je trouve ça extraordinaire. Après, est-ce que ça va durer? Enfin, peut-être que les mobilisations... pourrait être récurrente, par exemple, à chaque fois qu'une loi est débattue, mais pas forcément une loi en relation avec la nature, c'est-à-dire toutes les lois. Et c'était un peu ce que disait Nicolas Hulot, que vous n'avez pas passé, mais c'était l'histoire de changer de logiciel, enfin, que l'important serait peut-être de se poser de nouvelles questions. Et ça, ce n'est pas que lui qui le dit. Hein.
Ouais. Alors, il y a un autre extrait de ce qu'il dit qu'on n'a pas passé et auquel, effectivement, ces marches semblent être une réponse immédiate. C'est sa fameuse apostrophe « Où sont mes troupes ?» À un moment, il dit « Où sont mes troupes ?» Je suis tout seul, j'ai été tout seul, j'étais tout seul au gouvernement, j'étais tout seul dans la société. Où sont mes troupes ?» Et on a l'impression que cette manif était une réponse directe.
Peut-être, mais c'est encore des petites troupes.
C'est encore une petite troupe. Oui, Jean-Baptiste Combi.
Oui, je pense qu'il faut aussi réinscrire ça dans l'histoire au moins des 10-15 dernières années de mobilisation sur l'environnement et se rappeler qu'il y a 3 ans, en amont de la COP21 à Paris, il y avait quand même eu une mobilisation très forte, avec notamment par exemple les villages Alternativa qui avaient réuni aussi des milliers de personnes. Et effectivement, depuis 3 ans, il y avait un peu moins de manifestations relatives à l'écologie. Il y avait eu les luttes un peu plus politiques et conflictuelles autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, mais qui étaient peut-être plus clivantes. On a quelque chose qui vient aussi certainement après, et c'est ça que je trouve intéressant dans cette mobilisation, c'est la question, sont pointées la question des pesticides et des lobbies. C'est ça qui a mis un peu sur l'agenda des préoccupations Nicolas Hulot lors de sa démission, et ça vient effectivement après des déconvenues, je pense, dans l'opinion publique, enfin, tout ça dans beaucoup de parties de la population autour de la timidité des gouvernants sur la question des pesticides, du glyphosate notamment. Si on réinscrit ça dans un contexte, on se dit que c'est finalement pas si surprenant qu'il y a certaines... Enfin, il faudrait y enquêter un peu plus pour comprendre ce frémissement-là autour de l'environnement là, depuis quelques jours et quelques semaines. Maintenant, effectivement, la question, c'est est-ce que ça va être durable? Je suis un peu dubitatif, mais je l'espère. Par exemple, quand on entend Nicolas Hulot, il y a un passage moi, qui m'avait marqué aussi dans son discours sur le fait qu'on ne peut plus continuer la politique des petits pas face à l'urgence écologique. Ça m'a un peu surpris parce qu'il est le premier à avoir mis en avant dans les politiques publiques qu'il propose ce que j'ai appelé moi le réformisme écologique, c'est-à-dire agir par réformisme, petite touche par petite touche. Mais ça, j'ai envie de dire, l'idéologie dominante s'en délecte de ça. Et il faut rompre.
Si on parle d'électrochoc, ce qui me paraît clair, c'est que Nicolas Hulot, il a au moins autant été la cause d'un électrochoc que victime lui-même ou l'objet lui-même de l'électrochoc. Je veux dire, le Nicolas Hulot qui prononce qui fait cette émission d'émission, c'est pas le même que celui qui tentait 2 mois ou 3 mois plus tôt. Lui-même a peut-être été le premier lieu de l'électrochoc. Ça s'est d'abord peut-être passé en lui. Non, vous pensez pas?
Alors, je l'espère, bien sûr, mais ce discours un peu changer de logiciel, changer de matrice, il faut révolutionner le système, etc., il est ancien chez Nicolas Hulot. Il est ancien, par exemple, dans le syndrome Titanic, film qu'il avait réalisé il y a une dizaine d'années. Déjà, il avait ce discours-là. Et moi, j'étais toujours surpris entre le fait qu'il a ce discours-là, mais qu'il va en même temps toujours stigmatiser les militants dits les plus radicaux, mais qui sont en fait les militants les plus politiques. On l'a quasiment pas vu à Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Et puis, par ailleurs, il va promouvoir des politiques publiques qui sont parfaitement compatibles avec le logiciel existant. Donc maintenant, bah, qu'il passe de la parole aux actes et qu'il prenne voilà, des positions fortes qui aillent à l'encontre des politiques publiques qui sont contraintes par une idéologie qu'on appelle le néolibéralisme.
Quand vous lui demandez de passer de la parole aux actes, c'est-à-dire que vous lui voyez encore à lui personnellement un rôle à jouer dans les temps qui viennent ? Vous attendez encore quelque chose de lui personnellement dans les temps qui viennent ?
Personnellement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une parole qui porte médiatiquement et politiquement. Et donc, voilà, après, est-ce qu'il sera capable de faire en sorte que, voilà, d'avoir des prises de position qui soient plus constantes, en fait ? Parce que c'est ça qui est troublant chez Nicolas Hulot, c'est qu'un coup, il va avoir un discours révolutionnaire, puis un autre coup, il va dire « le capitalisme vert, finalement, c'est pas si mal ». Bon, au bout d'un moment, cette contradiction, lui-même parle de contradiction, je ne sais pas.
Il est ambivalent, mais est-ce que finalement, on n'est pas tous ambivalents un peu par rapport à ces questions ? Oui.
Il l'a annoncé pendant son émission à France Inter. Il a dit qu'il ne ferait rien qui puisse porter préjudice à la politique de ces deux personnes qu'il estime énormément, que sont Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Donc, de toute façon, tant qu'on aura Macron comme président, on ne voit pas comment Nicolas Hulot va fournir des troupes qui vont s'opposer politiquement, parce que c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Donc ça veut dire que c'est pas avant 3 à 8 ans. Et donc, quand on voit les constats alarmistes et pas du tout infondés des scientifiques sur l'urgence, et moi c'est vraiment ce que j'ai pris comme conscience en faisant le tour de cette planète comme ça, mais je me suis rendu compte de combien elle était petite et qu'il y avait urgence, quoi. Et ça,
alors, dans les moyens de faire pression sur le politique, il y a éventuellement Nicolas Hulot si un jour il se décide à faire pression sur le politique, bon, et il y a aussi la campagne qui a été lancée cette semaine autour d'une charmante fleur des champs.
Les coquelicots. Nous voulons des coquelicots. C'est donc un appel pour l'interdiction immédiate des pesticides, de tous les pesticides. C'est un appel qui a été lancé mercredi dernier dans les colonnes de Charlie Hebdo, d'ailleurs, qui a consacré son numéro entièrement aux pesticides. Et l'initiateur, c'est Fabrice Nicolino. Donc, il travaille pour l'hebdomadaire satirique, mais nos abonnés le connaissent bien, puisqu'il était justement chroniqueur chez nous. Il est spécialisé dans les questions écologiques. Et il a déjà réuni des centaines de signatures de citoyens inconnus du public et aussi de nombreuses associations. Nicolino est également le président de l'association qui a été créée pour l'occasion, qui s'appelle aussi Nous voulons des coquelicots. Et il vise d'ici 2 ans 5 millions de signatures. En attendant, son appel a reçu un écho retentissant dans la presse, dans les médias, et on va l'écouter.
Nous voulons des coquelicots. C'est l'appel lancé dans le numéro spécial pesticides de Charlie Hebdo paru aujourd'hui.
Tout le monde, rigoureusement tout le monde, est contaminé désormais par les pesticides parce qu'il y en a partout. Je crois que ça a échappé à personne que les pesticides sont devenus un danger colossal. Vous avez parlé des oiseaux, des insectes. La santé humaine, évidemment, est en jeu.
Je dis, sans aucun détour, que l'industrie des pesticides est progressivement devenue une industrie criminelle. Et sans aucun doute, aujourd'hui, c'est une industrie criminelle.
Ce qu'on préconise, justement, c'est l'appel auquel Charlie Hebdo s'associe. C'est un appel qui est lancé par une quarantaine d'associations.
Il y a un appel ?
Oui,
c'est d'arrêter
définitivement les pesticides. Parce que depuis trop d'années, on négocie, on tergiverse.
On veut que la France se réveille, que la France montre qu'elle est encore un pays vivant. Une société vivante a le droit de réclamer ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Et nous, nous voulons des coquelicots.
Alors, on ne va pas entrer dans le débat de fond sur les coquelicots. En fait, cet appel a généré un débat de fond sur le coquelicot. Est-ce que le coquelicot est vraiment aussi innocent qu'on le dit ? Est-ce que le coquelicot n'est pas néfaste aux cultures ? Est-ce que le coquelicot ne transporte pas des maladies ? Donc, c'est une autre question qu'on réglera sans doute pas.
C'est une façon géniale de ne pas répondre au problème.
Alors, voilà, c'est une façon géniale. Ouais, mais enfin, en même temps, de s'interroger sur le symbole du coquelicot. Non, moi, ce que je voudrais qu'on se demande ici, c'est quelles sont les chances d'efficacité médiatique de la la campagne. Alors, on a vu que sa traduction télé, c'est la figure de Nicolino, extrêmement éloquent, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la traduction image dans la presse a été double. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de journaux qui ont traduit, qui ont choisi d'illustrer la campagne avec des photos de Coquelicot, voilà, qui sont toujours des photos extrêmement évocatrice, parce qu'on parlait des hirondelles tout à l'heure, mais tout le monde a vu des coquelicots dans les champs. Donc le coquelicot, ça parle à tout le monde. Et d'autres journaux, en revanche, ont choisi d'illustrer la campagne avec des rayons de supermarché qui vendent du Roundup. Alors là, je voudrais qu'on parle image, efficacité de message. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, selon vous, tiens, le photographe?
Pour le coup, les choix iconographiques de Coquelicot sont absolument délicieux. C'est de la banque d'images pure, mais il n'empêche que ça marche. C'est-à-dire que ça va convoquer notre image d'enfance, nos repères de ce qu'est une nature innocente, alors que le Roundup, c'est l'image de l'économie qui dégrade, mais qui ne nous permet pas de nous figurer le manque et la perspective de la nature dévastée.
Non, quoi. Mais qui désigne l'adversaire, par contre.
Ça désigne l'adversaire, mais l'adversaire, on le connaît, et le système, on le connaît, ces mots. Et on peut faire des discussions de café du commerce en disant le système est pourri, ça ne va pas changer, malheureusement, là, tout de suite, à nous deux, la face du monde. Mais par contre, si on parle des coquelicots, je vais repartir et je vais à jamais avoir l'idée que, bah ouais, on n'en voit plus des coquelicots.
Après, vous auriez choisi le coquelicot, vous, pour illustrer.
Ça paraît clair.
Là, on voit bien que c'est une image délicieuse.
Vous êtes d'accord, vous auriez été icono dans un journal, vous preniez le coquelicot plutôt que le Roundup.
Je ne suis pas icono dans un journal.
Vous auriez été.
Pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis entièrement d'accord avec vos arguments. C'est-à-dire que le coquelicot, ça rappelle pour beaucoup, en tout cas de notre génération, de ce qu'était avant. Alors, j'aime pas trop faire appel à toujours ce qu'était avant, parce qu'on n'est pas là pour revenir à l'âge de nos grands-parents. Mais quand même, il y a une espèce de mémoire qui parle justement aux émotions, aux affects dont on parlait tout au début d'émission. Quoi. Et alors que le Roundup, c'est facile de dire que c'est les autres qui sont responsables. Moi, je n'achète pas de Roundup, donc je peux être en colère contre ceux qui en achètent, je peux être en colère contre ceux qui en produisent, mais finalement, moi, je ne vais pas changer mon mode de vie parce que ce n'est pas moi le responsable. Il suffit que j'achète plus de Roundup, et d'ailleurs, je n'en achète pas, donc tout va bien. Mais par contre, le coquelicot, ça fait appel plus aux émotions intimes et à l'identité, notre propre identité, et qu'est-ce qu'on a envie de...
Voilà. Et comme disait Bollendorf au début de cette émission, ça affecte. Ouais. C'est une image qui affecte. Ouais. Jean-Baptiste Combi, sur ce choix iconographique, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire.
Non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je prendrai les deux, je trouve qu'elles sont assez complémentaires.
Très bien. Alors on s'est posé beaucoup de questions dans cette émission, notamment en nous demandant si la mobilisation actuelle, l'électrochoc actuel, allait être durable. Vous avez un pronostic? Je vous pose la question à vous, puisque c'est vous finalement qui mêlez les questions psychologiques aux questions écologiques autour de ce plateau. Vous avez une intuition? Je ne vous demande pas une prophétie, mais vous avez une intuition?
C'est une bonne question. Ouais.
Non,
je pense que ce sera durable à partir du moment où tout le monde, qu'on soit, quel que soit, enfin qui qu'on soit, citoyen, citoyenne, élu politique, responsable économique, tout ça, décide de se poser d'autres questions et non pas de séparer le méchant capitalisme ou le libéralisme et puis le gentil écolo, par exemple, mais de se poser d'autres questions et notamment de questionner tous ces choix sur à la question, par exemple, de la durabilité. Juste, on n'a qu'une planète, elle est toute petite, et on est en train de la mettre en l'air. Donc,
mais en pour ça, comme vous le faites, vous vous situez dans un camp en même temps, en disant que la décision incombe à tout le monde.
Non, de tout le monde en même temps. Enfin, pas de tout le monde. J'aime pas le mot en même temps, pardon. Pas de tout le monde d'une façon homogène. On fait partie de groupes sociaux, on est des individus, on fait partie de groupes sociaux, et c'est normal que les groupes sociaux s'affrontent, se discutent, voilà, et c'est comme ça que la société fonctionne, et loin de moi l'idée de dire qu'en fait on est tous une même famille et qu'on va tous bisounours et tout ça. Non, ça c'est pas possible. Mais par contre, si chacun, à l'intérieur, en tant qu'individu, à l'intérieur de son groupe social, on change de regard sur la nature qui nous entoure, sur le fait qu'on fait partie d'elle, qu'on a envie d'être affecté par elle, que positivement ou négativement, mais qu'on se pose la question de qui on est par rapport à ce monde-là, Ça ne veut pas dire qu'on va de nouveau, on va avoir des nouvelles relations fraternelles, ça c'est clair. Mais par contre, les confrontations, elles ne seront sans doute pas les mêmes.
Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Nous reviendrons évidemment très souvent sur ces sujets. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Merci. Merci.